c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoumoudani.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau. Tom Villa est là.
Bonjour.
Et notre invité, Eddy Mitchell. Merci Eddy,
de venir
dans la bande originale. Je trouve qu'en plus le titre, la bande originale, irait très bien à une émission présentée par Eddy Mitchell, bande originale. On tomberait dans les émissions style Esprit Dernière Séance, savoir aussi l'importance de la musique dans un film, mais aussi dans la vie et dans votre vie. Il y a une tribu, cette même tribu, la même tribu depuis le début, mais c'est le volume 1 que vous annoncez et qui sort aujourd'hui. La définition de votre tribu, c'est quoi? C'est les meilleurs potes ou les pires potes?
Non, c'est pas forcément des amis intimes, hein. C'est des gens qui font le même métier. C'est un peu le genre de
voyage. Grande tribu,
ouais, c'est énorme. Une grande tribu, oui. C'est les forains, quoi.
C'est ceux qui ont le même totem, vous dites, la musique,
pas forcément
la tournée.
Pas forcément le même, justement. Non, on peut très bien, je dirais, aimer, respecter quelqu'un sans pour cela aimer son répertoire. Mais par contre, c'est, je crois, le seul métier où il y a du respect entre nous.
Est-ce que l'inverse est bon? C'est-à-dire, on peut aimer le répertoire de quelqu'un et ne pas respecter la personne qui...
Ah bah oui, ça
peut arriver. Tu en as reçu un Taratatan avec ou pas? J'ai la moitié à chaque fois.
Mais ça va pas, non.
Ouais, trois quarts.
Sur cet album, il y a alors un titre original et des reprises de votre répertoire. Comment proposer les invitations? Est-ce que c'est en fonction de la disponibilité? Il y avait des incontournables comme Johnny.
Oui, bien sûr, il y a des incontournables. Et puis, il y a aussi, comme vous le dites, la liberté de chacun. Est-ce que t'es libre? Est-ce que t'es pas libre?
Ouais.
Donc, c'est un disque qui a été très très long à faire. Parce qu'on s'y est pris en début janvier pour terminer fin juillet. Donc, ça prend du temps. Mais le résultat, je crois, est efficace et tous les participants sont heureux.
Non, c'est extrêmement agréable pour redécouvrir aussi des chansons parce qu'elles sont réarrangées.
Oui.
Même vous les chantez d'une manière un tout petit peu différente. On a l'impression que vous redécouvrez vous-même les chansons que vous aviez faites.
C'est grâce à l'arrangeur, et puis le fait de chanter en duo, ce qui est pas évident. Ça vous oblige à chercher des contre-chants qui n'existaient pas sur l'original. Donc ça, c'était
si je chante l'amour ou bien n'importe quoi, qu'importe le sujet, les gens disent de moi c'est un rock. Ah, c'est un roll. Pourtant dans leur cœur, il y a aussi le moqueur. Et le mode rétro avec ses wap do wap qui a tué dans ma tête, il chante près de moi c'est un rock.
Johnny, j'ai envie de dire, évidemment, on se demande même si ce disque, la même tribu, aurait pu avoir un volume 1 sans Johnny, tellement dans l'esprit du public, de nous tous, c'est comme si vous étiez frangin, c'est même pas une question
oui,
de tribu.
Oui, c'est le terme d'ailleurs, on se considère comme tel, on se connaît depuis...
Depuis une baston, ça a commencé par une bagarre.
Oui, mais c'est très vieux, j'avais 15 ans, lui 14, donc... Donc depuis c'est oublié.
Et qui a gagné?
C'est moi. Faut bien le dire.
On peut le dire maintenant.
Bon, enfin c'était pas bien méchant.
Mais sur ce titre on a la sensation que vos voix fusionnent.
Oui, c'est vrai que on est fait pour chanter ensemble.
Ouais.
Et ça s'arrête là. Hein.
c'est le seul d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le seul que vous remerciez. On entend en tout cas le merci de Johnny à la fin de la chanson, ce qui n'est pas le cas
de l'autre. C'est un clin d'œil que je lui ai fait parce que j'ai enregistré à Los Angeles, Johnny, et parce que j'ai d'abord fait les rythmiques et les cuivres à Los Angeles. Et comme il habite Los Angeles, je dis écoute, tu viens. Et il me dit rien, mais il habite à Palisades et moi j'étais en studio à Burbank. Donc il y a 2 heures de voyage à peu près. Il a donc passé 4 heures en voiture aller-retour et pour un quart d'heure en studio. Donc merci Johnny.
On sourit à toutes ces anecdotes. Juste évidemment, on peut pas s'empêcher de vous demander si vous avez des nouvelles de Johnny parce que on sait qu'il se bat, on sait que c'est un battant justement.
C'est le terme. Bah d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles. C'est on est quoi aujourd'hui?
Vendredi.
Enfin, jour du poisson. Ouais. J'ai eu des nouvelles mardi.
Ok.
Mardi, il était en studio. Robocop est en studio.
avec Maxime Nucci pour un nouvel album autour du blues.
Il peaufinait parce que je crois qu'il c'est sur la fin de l'album. Oui.
Ok, parfait. En tout cas, n'hésitez pas à embrasser votre frangin pour nous. On l'aime d'amour. On veut des légendes avec Alain Souchon. Ça, c'est aussi invité Alain Souchon.
On veut des légendes. Les légendes.
Est-ce que ce sont les invités qui choisissent la chanson sur laquelle ils se sentiraient le mieux, ou est-ce que vous vous dites, tiens, par rapport à leur voix ou par rapport à ce qu'ils dégagent comme histoire?
Certains disent, je veux chanter ça c'est évident.
Comme
Comme par exemple Renaud, qui lui voulait La route de Memphis, car c'est une chanson que, dit-il, qu'il aurait voulu écrire. Mais je dis, bon, tu peux pas, mais tu vas la chanter.
J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis.
C'est vrai que ça lui va bien en plus. C'est vrai.
Oui, mais par contre, moi j'avais des problèmes parce que lui chante vraiment, vraiment dans la cave.
Et... On parle de tonalité là, on parle pas de fourniture.
Oui, je lui ai donc dit, moi je suis ténor, je suis pas caviste. Voilà. Donc, je vais avoir des soucis.
Et ceux à qui vous avez proposé, par exemple, parce qu'Alain Souchon, c'est vous qui avez proposé.
Oui, il était un peu réticent, mais il trouvait que c'était un peu trop musclé pour lui. Mais je lui ai dit, te tracasse pas parce que je vais la traiter country, rien à voir avec la version qu'on avait faite ensemble, Denis et moi.
Donc pour retrouver ce mariage parfait entre les invités et les chansons, il faut faire aussi des choix dans votre répertoire, parce que c'est vrai que c'est une manière de revisiter des chansons. Moi, il m'en manque plein aussi, des chansons que...
Mais il y a un tome 2, mon cher.
Il y a déjà enregistré ou pas d'ailleurs?
Tome 3, 4,
Il y a encore 3 titres à faire, mais enfin, on est sur le...
Et c'est les mêmes invités ou vous avez encore élargi la tribu?
Non, c'est élargi. Il y a Woolsey, il y a Scheller, il y a Maxime Le Forestier, Calogero, Pascal Obispo, Cécile de France, enfin il y a du monde.
Et justement dans la même tribu, il y a tous ceux qui chantent dans votre album, les oui. duos qui sont regroupés dans cette même chanson. Oui. Et dans le clip, en gros, c'est une sorte de making-of un peu de l'enregistrement. Oui. Et on voit les paroles à un moment et on voit qu'il y a rayé Joe le taxi et Besoin de personne qui a été rayé. Oui, oui. Et il devait y avoir Samson et Paradis.
Voilà, et puis...
Et vous balancez.
C'est dans le clip. Mais je veux dire, c'est...
Je parle de Eddie. Et il balance en disant, ok, ils sont pas venus.
Non, ils sont pas venus, mais parce qu'ils pouvaient pas, c'est tout. Parce que Vanessa, quand on l'a contactée, elle repartait voir ses enfants aux États-Unis. Elle pensait y rester 6 mois.
Mais vous étiez aux États-Unis.
Non, mais j'étais rentré, moi. C'est pas simple.
Fallait enregistrer Orly.
Oui, c'est vrai.
C'est simple.
L'album s'appelle La Même Tribu, volume 1. Donc, Eddie Mitchell est notre invité jusqu'à midi et demi. C'est un très bon album avec de purs musiciens, mais surtout, on a le sentiment de rentrer un peu dans la bande. On a le sentiment d'être pote de la tribu en venant vous entendre et observer. Le casting est impressionnant. Johnny Hallyday, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Alain Souchon, Julien Clerc, Renaud, Christophe, Sanseverino, Maxime Le Forestier, Michel Jonas, Arnaud, le titre que vous faites avec Arnaud, ouais. L'Hbot Blues, ça lui va tellement bien, là. Tellement bien à tous les deux. Brigitte, Thomas Dutronc, William Scheller, Laurent Gérard, Jacques Dutronc. Laurent Gérard.
Ouais. Oui, parce que justement, lui, là, c'est dans le volume 2. Lui, il imite ceux qui n'ont pas pu venir.
Pratique.
Et il est présent aussi sur La Même Tribu. J'espère, Tom Villa, que vous avez bien compris pourquoi Eddie Mitchell était notre invité.
Ça fait 2 ans que je vous le demande, donc évidemment que je sais pourquoi. Non, il faut que je vous raconte. En fait, on a été on était en vacances la semaine dernière, Eddie.
Bien, bravo.
Voilà. Enfin, surtout Nagui. Et voilà, un matin, le réveil sonne très tôt, vers midi. Moi, qu'est-ce que je fais? Je réveille la personne qui partage mon lit, parce que oui, j'ai retrouvé quelqu'un. Ou plutôt, la personne m'a retrouvé. Comment vous la décrire?
Elle était maquillée comme une star de ciné.
Peur. Sauf que j'ai pas dit quel type de cinéma. Voilà. Et plus vers la fin de l'alphabet. Bref, ce matin-là.
Je réveille mon voisin, je dors comme un nouveau-né.
C'est Daniel Morin que j'héberge. Voilà. D'où le côté un peu froissé, mal repassé de la personne. Parce que voilà, il s'est fait virer par sa femme pour des problèmes qui, voilà. Horrible. Sa femme l'a retrouvé en barésie avec des talons de 15, une perruque. Bref, oui, mesdames et messieurs, Daniel Morin Straveluche. Bon, au-delà de 2 grammes, il veut qu'on l'appelle Daniela et qu'on lui parle en espagnol. Donc là, forcément, je lui ai dit.
Oh,
forcément. Du coup, je veux bien t'héberger, t'es dans la merde, ça se fait dépanner.
Merci.
Les communs, mais.
On fait comme on a dit, tu
reste encore 8 jours. Okay.
Et après, on peut encore attendre 8 jours de plus, mais pas plus d'un mois ou deux. D'accord. Et en plus, faut le savoir, Daniela, elle est pas commode au réveil, hein. Madame Échanchon, direct, il me dit.
Tu me prépares le café noir.
Dis donc, je suis pas ta boniche quand même. Direct, il me prend par les sentiments. Ouais, enfin disons que tu m'as offert l'apéro une fois, moi je t'héberge 2 mois, donc je sais pas si le ratio est très bon. Déjà je t'héberge, je suis vomi sur le tapis, enfin toi tu penses que c'est le tapis en fait, c'était mon chat, hein.
Ouais.
C'est facile Daniel.
Ouais, je le pense.
Vraiment désolé pour toi.
Pour lui, c'est trop facile Sam. Merde, tu fais chier Daniel.
Un peu moins fort, hein, un peu quand même.
Bah oui, t'as pris une murche, t'as mal au crâne, hein. Je parle fort si je veux, Daniel, hein. Déjà que le commissariat m'a réveillé en pleine nuit pour venir te chercher.
Pour une fois, les flics ont gagné.
Bah oui, mais il y a un moment quand tu fais de la moto en zigzagant, sans casque, sans gants et sans moto, les flics te repèrent, hein. Mais qu'est-ce que t'aimerais aujourd'hui, Daniela?
J'aimerais avoir 16 ans.
C'est vrai, boulot.
Aujourd'hui.
Ok, mais en truc réalisable. Ça va être compliqué quand même, hein. Je vais pas te cacher. T'as quel âge déjà, Daniela ?
Tout juste d'avoir mes 14 ans.
Ah, c'est marrant, j'aurais dit plus. Enfin bon, bref. En tout cas, faut le savoir, Daniela, le matin, elle fait la gueule.
J'aime pas les gens qui sont toujours heureux.
Ah mais là franchement, si on doit cohabiter, il faudra vraiment que tu fasses un effort, hein.
Je suis pas pire qu'avant.
C'est pas faux. Et d'ailleurs, si tu peux remplir un peu le frigo au passage, ça m'arrange, hein.
Solvable à mi-temps.
Ah, ok, d'accord. Le gratteur. En plus, il veut me prendre par les sentiments.
On est tous issus de la même tribu.
Voilà, quand ça t'arrange, évidemment, hein. Et puis tout d'un coup, je vois l'œil de Daniela changer, son poil se dresser et me susurrer à l'oreille.
Je t'imagine faisant la boue.
Voilà. C'est très gênant, Daniel. Hein.
C'est
du coup, j'allume le poste de radio sur France Inter.
Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait.
Pas de pause, c'était le best-of de la bande originale. Voilà, et on est dedans. Allez, bonne journée. La semaine prochaine, je vous raconte comment je me suis retrouvé à changer la courroie de distribution de la bagnole d'Albert Algou. Bonne journée.
La bande originale. France Inter.
Pour écrire la même tribu, vous avez intégré les textes des,
oui,
de vos invités.
Oui, c'est pour ça que monsieur a bien remarqué qu'il y a des trucs rayés, parce qu'il y avait Joe le taxi, et bon, alors, elle n'est pas venue, donc on repart à zéro. Il y avait Samson qui devait dire « besoin de personne, au revoir, on
change ». Oui, mais sauf que vous avez écrit la chanson en sachant qui allait venir ou en rêvant
En rêvant, donc c'est un peu gamin quand même.
Et puis il y a le célèbre jeu que l'on va faire évidemment, c'est-à-dire écouter la chanson et essayer de retrouver le fameux qui est qui dans ce casting, parce qu'il y a des voix très très courtes, très rapides, ceci étant... C'est aidé par soit une phrase clé de leur répertoire, soit un gimmick régulier. La même tribu, c'est l'album. Le volume 1 sort aujourd'hui. Eddy Mitchell est notre invité dans cette bande originale de votre matinée sur Inter jusqu'à midi et demi.
On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur Je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos manitous, nos grands sachem. Pour le grand public, on est le star system. Des héros. Moi de la rue où je suis né, mais nos sens sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu.
On a quelque chose de Tennessee,
de Belle-Île en mer ou de Lucie. Sentimental.
Femme, je vous aime, c'est la vie, mon chéri.
On a nos Mistral gagnants,
Aline sur le sable blanc.
Mais il y a des embouts
Castellane.
Dans nos cœurs à tous les âges, mercenaires, sans foi ou ingénus, tous issus de la même tribu. Nous on est nés quelque part,
peut-être dans une boîte de char,
destins tous européens.
Est-ce un mal ou un bien? Nous on veut que le bonheur.
Peut-être en
comme un manouche sans guitare.
On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. Pour le grand public, on est le star system, des héros vus et connus.
Moi je suis un homme heureux,
je vous imite tous quand je veux.
Différents individus,
oui mais moi je fais cac boum.
Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu. Différents individus, issus de la même tribu.
Eddie Mitchell, la même tribu avec toute cette bande de, on a quand même envie de dire de copains, parce que même si ils sont pas tous des amis intimes, c'est un choix, une programmation presque que vous avez faite. Vous avez fait le rôle, vous avez retrouvé votre rôle de producteur, peut-être pas télé mais musical, okay. En disant
oui,
venez participer.
Oui.
Cette même tribu. On parle un tout petit peu de la pochette, même à la radio. Il faut évoquer quand même le travail formidable de bande dessinée. On retrouve là aussi un autre univers où les tronches de pratiquement tous les invités. Si le tronche de tous les invités se retrouve dessiné comme dans un troquet, et vous
un
êtes
saloon.
Le barman.
Ouais,
un saloon.
Un troquet western, on va dire.
et vous êtes le barman.
Oui.
Alors, comment, là aussi, comment est venue l'idée de cette pochette?
C'est-à-dire que moi, je suis un fan de BD, c'est pas nouveau, et de planches originales, entre autres, etc. Et je suis fan de ce, enfin, pas ce nouveau, parce qu'il a quand même déjà un peu de bouteille, ce dessinateur. Qui est formidable, qui est Ralph Meyer, et qui fait une série de BD extraordinaire qui s'appelle Undertaker, et qui est, c'est un peu l'enfant de Giro, de Jigé, de tout cela. Mais il a une patte à lui, et en plus, ses scénarios sont formidables, parce que ça me fait penser un peu aux séries, vous savez, où il y a un personnage central avec des seconds rôles, et puis dans une autre histoire, paf, c'est le second rôle qui devient la star, etc. Et ça, c'est intéressant. Dans la BD, ça n'existait pas.
Alors, dans cet album, ce volume 1, des invités comme Johnny, on a dit, Renaud, Jacques Dutronc, paraissent être des incontournables. On peut être plus surpris quand vous allez sur sur une autre génération, comme celle de Sanseverino ou de Kerenan. Ça, c'est parce que vous aimez leur répertoire, parce qu'on vous les a suggérés.
Oui, Sanseverino, oui. Et le truc qui est amusant, c'est que l'idée m'était venue de faire Nashville ou Belleville avec lui dans cette émission-là, parce que pour le précédent album, on avait fait donc une promo ensemble dans ce même studio.
Dans cette même émission,
donc il faisait partie.
Exactement.
Et pendant qu'on discutait, lui jouait Nashville ou Belleville.
Exact.
J'ai dit, tiens, toi, je te retrouverai.
Et on l'a, ça, d'ailleurs.
Boulevard Elvis, au cœur de Memphis, je traîne là en touriste. Mais où sont mes racines, Nashville ou Belleville, Jerry Lee Lewis.
Et ça, c'était dans la bande originale, et sur l'album, ça devient
Boulevard Elvis, au cœur de Memphis.
Et c'est appliqué là, un peu plus. Hein.
Oui, enfin, notre prise de son était quand même bien meilleure que celle des Américains. Faut quand même arrêter.
C'est trop couvert là,
ouais,
je suis d'accord. Jerry Lee
Lewis.
Est-ce que vous avez des regrets de ne pas avoir tel ou tel invité? Entre le volume 1 et le volume 2, on les a pas nous tous en tête. Est-ce qu'il y a un rêve qui n'a pas pu se réaliser?
Oui, il y a eu Tina Turner qui devait chanter avec moi, toujours un coin qui me rappelle. Et puis elle a subi une opération très très lourde, il n'y a pas très longtemps. Et elle en a pour 6 mois, 1 an de rétablissement.
À se remettre.
Ah ouais.
D'accord.
Donc elle m'a dit, bah non. Voilà.
C'est chose remise, en tout cas.
Volume 3, volume 3.
Ouais, évidemment,
volume
évidemment. 3, vos oreilles ont sifflé, ouais. Leïla, quand on vous annonçait la venue d'Eddie et Mitchell dans la bande originale.
Quand je pense à vous, Eddie Mitchell, je pense à un titre de livre, Philosophie du schmoll, Eddie Mitchell ou la question du scepticisme dans la société néolibérale.
Oula.
Ouais.
C'est même pas que ça existait, j'ai l'impression.
Non, non, c'est en couleur, c'est quoi?
Bien sûr, non, mais...
C'est à colorier, alors.
En fait, vous avez inspiré le travail d'un enseignant, Eddie Mitchell.
Ah oui, oui, oui,
Philippe Corcuff.
Oui.
Qui a considéré que vous étiez un philosophe qui parlait très bien de votre époque. Et il fait en sorte de vous faire enseigner à l'école où vous avez intégré les manuels scolaires.
Pauvre gosse.
Pourquoi pauvre gosse? Pourquoi pauvre gosse?
Parce que quand quand on est gosse et qu'on vous impose quelque chose, ça vous emmerde immédiatement, c'est normal.
Oui, sauf s'il y a un peu d'intérêt là-dedans.
Oui, ben là, faut vraiment que le prof soit très fort.
Ouais, vous vous dites quoi, mince, on va avoir une disserte Eddie Mitchell pour lundi.
On va faire une statue, des pigeons feront dessus, voilà. Bon,
Et est-ce que vous
ou
pensez...
Ou les pigeons d'ailleurs, si c'est pas les dents, c'est les pigeons, au moins les pigeons.
Si on reprend l'intitulé de ce livre, Eddie Mitchell ou la question du scepticisme dans la société néolibérale, est-ce que vous vous décririez comme un sceptique?
Sceptique, oui, mais sceptique enjoué, on va dire. Voilà. Sceptique de bonne humeur, sceptique. Oui, sceptique, bien sûr.
Pourquoi sceptique?
Parce que je ne crois pas aux hommes politiques, je ne crois pas à certains médias, je crois pas à tout ça. Donc, je pense pas d'ailleurs être le seul, mais donc, on vit de plus en plus en retrait, tout cela. Pour ça que c'est un peu du scepticisme.
On vous entend peu sur la question politique.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Sinon, qu'il y a de leur faire un bras, je vois pas autre chose à faire.
À ce point-là, il n'y a pas un mouvement, ou en tout cas, rien qui est...
Non, parce que plus ça va et plus on vote contre.
Ouais.
Donc on ne vote pas pour, on vote pour éviter le drame.
Ouais.
Donc il n'y a pas le choix.
Et ça a toujours été comme ça, tout au long de votre vie ou pas? Vous avez senti que l'intérêt pour la politique s'est amenui avec le temps?
Ça oui, c'est vrai. Plus ça va, et plus d'ailleurs, je pense que c'est un peu le réflexe des Français. Plus ça va, plus la politique n'intéresse plus personne. Il n'y a qu'à voir l'échec de la droite, la gauche qui se perd en chemin. Enfin oui, j'allais dire autre chose, mais bon, qui perd ses bas, quoi. Puis voilà.
Et plus tôt dans votre vie, est-ce que vous aviez une sorte de conviction politique chevillée au corps? Est-ce que vous avez
été militant? J'étais anti-gaulliste, alors donc ça m'occupait, hein, parce qu'il prenait de la place. Monsieur.
Vous avez été très giscardien pendant un moment.
Oh hein, non. Non, j'étais Mitterrand, c'est vrai, j'ai cru en Mitterrand.
Et comment ça s'est matérialisé? Est-ce que vous étiez un engagement individuel ou actif dans la société?
Ah non, il suffit de voter, ça suffit. Ouais. Bon, en plus, ça allait faire les pompes. Non,
ça pourrait être milité au sein d'un parti.
Non, il y a eu quelques interviews où vous alliez pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, vous disiez ce que vous pensiez.
Bah oui, pourquoi
non, non, mais c'est ça, c'est une forme d'engagement.
D'engagement.
Et puis d'écrire des textes de chansons aussi. Ouais.
Oui, bon, bien sûr, mais enfin, ça me préoccupe pas plus que ça dans la journée. Hein.
Est-ce que vous vous êtes dit que potentiellement parler de votre rapport à la politique, ça pouvait être un problème par rapport au public?
Oui, ça, je pense que oui. Je veux dire. Parce que quand on est pour quelque chose, qu'on y croit, bon, pourquoi pas, et qu'on en parle et qu'on en parle, on influence des gens, souvent.
Ouais.
Bon, et c'est pas notre rôle, nous on est là pour les faire marrer, ou les divertir, ou pour les faire danser, ou pour les faire bouger. Mais on n'est pas là pour leur dire « engagez-vous, engagez-vous ».
Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des moments où vous êtes sur scène et vous vous dites « il y a une partie du public qui est... pour quelqu'un que je déteste, moi. »
Ça, j'y pense pas du tout.
Mmh.
Par contre, je crois que les politiques, eux, s'y intéressent parce qu'ils font pas autant de monde que nous.
Et voilà. Vous avez déjà été sollicité pour soutenir une campagne officiellement, comme on le voit de plus en plus, d'ailleurs.
Oui, mais enfin, ça m'a jamais jamais donné suite.
Il y a aussi sur l'album des duos, mais j'ai envie de dire des duos où vous êtes... pas seul, un duo entre vous
principe,
et un instrument. Ouais, non, mais pas, c'est pas des duos de voix.
Il n'y a pas que les mères qui font les enfants.
Je savais que je pouvais compter sur toi, Daniel.
Toujours là, tu sais.
La zone, la rue coule dans mon sang.
Et je pense à ce titre où vous partagez le son avec Maalouf, Ibrahim Maalouf.
Qui joue bien.
Punaise. c'est vrai qu'on peut penser que par rapport à la musique que vous aimez, celle que vous portez, on s'attendait peut-être à un solo de guitare. On s'attendait, la trompette, c'est un très bel instrument, très bien joué par Ibrahim. Mais je me suis dit, tiens, ou à l'harmonica.
Oui, non, ça a été possible, mais je tenais à voir Ibrahim parce que d'abord, je trouve qu'en France, il n'est pas assez reconnu, alors qu'aux États-Unis, il fait quand même des salles de 2000-3000 places, tranquille. Donc, alors que ce petit bonhomme joue de la trompette.
Si, non, il a mis le feu à Bercy avec 18 000 personnes. Et
oui,
c'était
oui,
formidable.
D'accord, mais c'est, ouais. On parle de ça maintenant, mais je parle de ça, moi, il y a 3-4 ans, hein, déjà.
D'accord.
Il y a 4 ans, il n'aurait pas fait 18 000 personnes à Paris, je pense.
C'est clair,
pas.
C'est clair.
Et donc, quand j'ai demandé à Rob Runzel, arrangeur, de réécrire des violons par-dessus, j'ai pensé tout de suite à la trompette, parce qu'une guitare, ça aurait, je sais pas, ça aurait été peut-être pas mal, mais je veux dire, ça aurait fait un petit peu téléphoner. Quoi.
Et sûrement, pourquoi le choix de cette chanson ouais. C'est vous qui l'avez choisi, la chanson.
Oui,
tout
oui,
seul.
La chanson, oui, puis en plus, je l'ai fait écouter, il a adoré, en avant, en feu.
C'est le choix des chansons moi, qui me perturbe, parce que quand on, encore une fois on voit votre répertoire, j'ai pas compté, d'ailleurs vous avez compté le nombre de chansons publiées ?
Non, autre chose à faire.
Non mais quoi
pas de politique, pas de comptabilité.
Non. Je traverse dans les clous quand même, parce que je suis français.
Ah, il lit des BD.
Mais au feu vert, bien sûr.
Non mais ça se compte par milliers, le nombre de chansons que vous avez enregistrées.
C'est peut-être non.
Comment choisir ? Comment choisir ? Comment se dire, voilà, je vais en publier une douzaine pour un
C'est pas simple, mais ce que je veux dire, c'est faut toujours penser au public quand même. Et le public, lui, retient l'essentiel. Il va pas chercher une face B ou un truc comme ça.
Julien Clerc avait fait ça sur son album. Il avait demandé à son public de lui
voter.
Ouais. Bah, étaient les titres qui leur tenaient le plus à cœur.
C'est bien, j'aurais dû faire ça, moi, d'ailleurs. Tu vois.
Non, mais par exemple, il n'y a pas la dernière séance.
Ben, c'est dans le prochain.
Ah, d'accord. Ça crée un effet d'attente.
D'accord.
Et vous préférez faire ce genre d'album que de faire des Générations et des Mitchell, comme il y a eu des Goldman, comme il y a eu Renaud, etc. Vous ne participez pas forcément.
Non, mais de toute façon, moi, au départ, je n'étais pas pour faire ce genre d'album.
Ah
du
bon
tout. Non. C'est une vieille idée de mon ex-PDG d'Universal, Pascal Nègre. Et moi, je disais, oui, mais ça va faire Ramnard, ça va faire... Moi, je reçois mes amis, je reçois machin, et je trouvais pas l'idée fantastique. Alors c'est le fait d'avoir écrit une chanson où je les remercie qui m'a convaincu de faire ce genre
très bien, très voilà. Bien, très bon album qui vous permettra de revisiter encore une fois avec les membres de la tribu d'Eddie Mitchell les titres que vous aimez comme.
Si je bois dans un bar 3 ou 10 verres de trop, quelqu'un tue une bagarre, les gens crient aussitôt c'est un rancœur.
Avec Johnny ou avec Arnaud.
Quand j'en fais pas mes tomes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne.
Ou Kerenan, j'adore aussi cette version du Toujours un coin qui me rappelle.
L'ombre vient, non pas m'entraîne.
Où l'on allait danser le soir.
Les deux voix se marient vachement bien, mais souvent, il hein, n'y a pas d'erreur de casting, bravo.
Et c'est renfort tous mes espoirs, comment pouvoir t'oublier.
À propos d'oublier, tiens, il ne faut pas oublier Julien Clerc.
Celle qui était mon passé, cet amour mort à tout jamais.
Et celui que vous traitez aussi de vieille canaille sur l'album.
Au bas du Lutetia, il a ses habitudes.
Jacques Dutronc.
Le barman connaît bien ses rites, ses attitudes.
Qui son rire est joyeux, il prépare à son deux ou un Bloody Mary chez elle ou dans sa vie.
Incontournable aussi, Christophe.
Elle regarde le monde actuel avec sa myopie jamais cruelle.
Le jour se lève, fille du motel.
Pour la fille du motel.
Vous avez une gentillesse d'interpréter avec elle dans Taratata.
Un matin banal, un soleil tout pâle, un samedi en hiver.
Elle est bien coiffée, elle part travailler. C'est vraiment pas Noël. pour la fille du motel.
La même tribu, l'album s'appelle tout simplement La même tribu volume 1. Eddy Mitchell est notre invité jusqu'à midi et demi. On va évoquer quelques dates de votre carrière, vraiment quelques dates. Hein. On va pas vous saouler en partant dans la bande originale avec trop de disques, puisque c'est finalement cette bande originale, c'est La même tribu. Mais ça sera juste après l'humeur de Marina Rollman. Mais si ! Qui a été adorable ce matin en arrivant. Elle m'a fait la bise et elle m'a dit « Ah ben non, j'aurais pas dû t'embrasser, je suis malade. »
Mais c'est l'effet que tu fais aux gens, Nagui. Qui
c'est ça, je te remercie. La prochaine fois, tu me dis avant.
Oui, alors moi, aujourd'hui, je voulais vous parler non pas de maladie, mais de vacances. Voilà, pour dire « ça suffit, il faut arrêter les vacances. » Tant que tous les gens qui partent n'auront pas, au préalable, été forcés de faire un séminaire d'écriture. Virginie Despentes, Yasmina Reza, Nabila Benatia, peu importe le style de l'auteur, mais il faut apprendre à raconter, bordel. Moi, je vais pas survivre à un récit de plus dans le style Brooklyn, ah non mais c'est génial, ça bouge, il y a des boutiques de dingue, des super coffee shops, il y a une espèce d'ébullition créative très cool et en même temps c'est super vert, on dirait un peu Montreuil. Eh ben reste à Montreuil, connard. C'est incroyable, on fait fondre les glaces à dépenser du jet fuel pour aller au bout du monde faire les mêmes trucs qu'on peut faire chez nous. En plus, comble de l'absurde, chez nous c'est la mode des trucs décorés un peu genre Brooklyn. Et aux États-Unis, c'est la mode des trucs décorés un peu genre à la française. Alors attendez, j'ai une idée de dingue, ça vous dit ? On ouvre un café français en France. Comme ça, on arrête de faire 8 heures d'avion pour dire à un serveur new-yorkais « I'll have a café au crème and the macaron, yes, thank you ». Ou alors, si le but avoué, c'est de faire exploser la planète, on va directement au pôle Nord avec des sèches-cheveux, qu'on en finisse plus rapidement, tu vois. En plus, il y a cette idée très compliquée de l'authenticité quand tu pars en vacances, qui vient se rajouter à tout ça. Tu sais, tu veux vivre du vrai, du brut, mais en 3 jours et sans parler la langue. Il y a un contresens. Tu peux pas faire le mouton aux mêmes dates que tout le monde dans des charters et vivre un truc unique. Je veux dire, la dernière fois que j'étais dans un aéroport, c'était très bien illustré d'ailleurs par une pub Dior qui passait comme ça en boucle sur les écrans géants au-dessus de la sécurité. Et dedans, il y avait Johnny Depp. Alors, il avait ses petites lunettes de Johnny Depp, vous savez, c'est ni solaire ni transparent, c'est un peu bleu clair. C'était mignon quand il avait 30 ans, là, il commence à ressembler à Sophia Loren. Enfin, peu importe. Johnny est là. Alors, au départ, il fait d'abord très mal semblant de jouer de la guitare. Ensuite, tu sens, il a envie de tout lâcher. Alors, il lâche sa guitare, il monte dans sa voiture, il roule dans le désert et là, il croise un bison. Alors là, clairement, Depp est plus impressionné de croiser le bison que l'inverse. Le bison, il a un truc à faire, il a un rendez-vous Pôle emploi, peu importe. Il se laisse pas démonter, il continue. Johnny Depp, ça réveille un truc en lui, du coup, il fait un sale créneau dans le sable, il sort de la voiture, il prend une pelle dans le coffre, il enlève ses colliers, il les enterre, il se met à pleurer et là, pack shot, sauvage. Bon, déjà nos condoléances à la famille de la personne qui a écrit ce spot, qui clairement a fait un AVC pendant la conception. Mais donc surtout, la conclusion de la pub, c'est Johnny Depp qui te dit tranquillement avec 6000 euros de fringues Dior sur le dos, soyez sauvage, faites comme je vous dis. Nous les vacanciers, nos petites aventures avec le routard à la main, c'est un petit peu le même niveau d'ironie. Bon après c'est vrai que le voyage, il y a le côté ouverture d'esprit, tu sais, en voyage, tu vis des trucs qui changent ta vision du monde. C'est vrai, hein. Moi, typiquement, j'étais dans le Luberon il y a quelques semaines, j'ai énormément appris. Par exemple, le fait de commencer à se pinter au rosé à 11h du matin, ça correspond très très bien à mon horloge interne. Ça a été une vraie leçon de vie, je me suis découverte. Et puis bon, plus simplement, c'est vrai que c'est chouette de partir en vacances pour passer des moments agréables, hein. Personnellement, par exemple, en décembre, je pars à Los Angeles. Alors, je vous entends déjà, mais non. Vraiment, si vous êtes jamais, il faut aller à Los Angeles. Parce que vraiment, c'est une autre mentalité que New York, tu vois. La proximité avec l'eau, le soleil. Il y a un truc hyper bouillonnant culturellement, c'est très détendu. Il y a des super. Il y a un côté un peu Marseille, en fait.
Marina Rollman, merci. Dans quelques instants, nous recevrons Yves Bigot, éminent spécialiste de la musique, qui avait signé, qui était venu présenter d'ailleurs Un Autre Monde aux éditions Don Quichotte dans cette émission. Mais d'abord, en musique, Eddy. Eddy Mitchell, notre invité, on a envie de dire que Eddy, mais pardon, on va être poli. Monsieur Eddy Mitchell, en 1981-82, on va parler cinéma cette fois-ci, vous chantiez.
Elle était maquillée comme une star de ciné.
Ça sera dans le volume 2, ça aussi.
Exact, oui.
Avec qui?
J'ai oublié, pardon.
Donc mais ça quelqu'un sera dans... de super.
Oui, c'est super, mais je suis un peu planté.
Juliette Armanet.
Voilà.
Juliette Armanet. Une habituée de nos studios également. 80-82, c'est aussi la période de coup de torchon et dernière séance, c'est-à-dire c'est le cinéma qui est votre passion. Vous êtes un comédien absolument... Ouais. Formidable, formidable. Je vous l'ai souvent dit, mais on vous aime. Et je sais que là, en plus, vous venez de terminer un tournage. Quel souvenir vous en avez de ce coup de torchon de Tavernier ?
Ah bah, c'est plutôt bien parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu Bertrand. C'était à Lyon, là, parce que je recevais une, je sais pas quoi, une récompense à Lyon. Et donc, j'ai mangé du saucisson, j'ai mangé. Voilà. Et on s'est remémoré deux, trois trucs. Et notamment des choses formidables. Par exemple, j'ai un doigt cassé que je ne peux à peine bouger. Et c'est grâce à Bertrand, parce que il y avait une petite scène de bagarre avec Noiret, mais vraiment pas méchante. Et il y avait personne pour nous doubler, bien sûr. Et puis, Bertrand.
Vous avez pas fait une cascade non plus.
Non, mais je dois prendre un coup de poing, je dois devenir en mettre un, puis je dois tomber, je suis tombé sur la main, et crac, j'ai tordu le doigt. Et le doigt est cassé, bon, c'est pas grave.
Et donc, depuis 40 ans?
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Ouais, bah oui, parce que comme j'étais obligé d'aller à Saint-Louis, on était à Saint-Louis du Sénégal, à l'hôpital me faire soigner, j'ai préféré me faire mettre un plat parce que j'ai vu des rats passer, des choses comme ça. Je dis, tiens, peut-être pas me faire soigner là.
Les maladies nosocomiales, peut-être oublier.
Non, mais je dis simplement que Bertrand, lui, fait, bah, écoutez, vous faites comme vous voulez, moi je veux pas voir ça.
Et vous dites que le personnage de Nono, c'était un véritable cadeau.
Oui, c'était un cadeau, mais c'était un peu empoisonné parce que moi je connaissais bien le roman original, ouais. 1275 âmes de Jim Thompson. Et dans le roman, le personnage est encore beaucoup plus énorme que ce que j'ai pu en faire à l'écran, puisqu'il est épileptique, il se roule par terre, il bave. Ouais. Il y a peut-être une prise, mais pas deux. J'aurais pas faire ça en boucle, quoi.
Et est-ce qu'à ce moment-là de votre vie, vous aviez envie de vous orienter en direction du cinéma uniquement?
Non.
Non, ça n'a jamais
non,
été.
Non, mais de toute manière, le cinéma, pour moi, c'est toujours un plaisir. C'est amusant, mais je suis pas vraiment comédien, je peux pas accepter.
Ah si, vous pouvez pas dire ça.
Non, mais non. Si, je dis ça parce que moi j'ai la chance de pouvoir choisir et de faire ce que j'ai envie de, ce qui me plaît, ce qui veut pas dire que j'ai raison. Je me gourre parfois dans,
vous
dire,
vous
dans mes choix.
Vous ne dépendez pas du désir des autres.
Non.
Vous êtes libre.
Ouais, complètement. Donc c'est amusant comme ça.
Est-ce que la télé c'était amusant parce que c'est la même période aussi, la dernière séance à la télé?
Oui, c'était amusant, mais c'était une autre période de l'histoire de la télévision. C'est-à-dire que on produisait Gérard Jourdu et moi l'émission en participation avec Patrick Boyon, et on livrait. Moi, j'ai jamais
Monsieur vu... Cinéma de la 3, hein, c'est ça?
Oui, si on veut. Mais moi, j'ai jamais vu les gens de télé, quoi. Puis c'est pour ça que ça se passait bien.
sûrement. C'est salaud de télé.
Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de la dernière séance? Comment ça a commencé?
C'était en plein mois d'août et j'avais une tournée qui s'annulait, je sais pas quoi, et j'étais 15 jours à Paris, je m'emmerdais, il n'y a pas d'autre terme. Et puis je connaissais le patron du cinéma Hermitage sur les Champs-Élysées, et je disais c'est con quand même que ça ferme à minuit et que ça dure pas jusqu'à 5h du matin, quoi, les projections. Il me dit, bah oui, mais c'est comme ça, c'est la loi. Je dis, on va essayer de voir ça avec les grands patrons de GC. Et j'ai demandé d'avoir la salle de minuit à 5h du mat. Et on a mis simplement une petite affiche et dit, Michel vous propose, c'était je crois le premier truc, La Blonde et moi et Escaramouche. Et ça a été un carton. Les gens venaient à minuit au cinéma jusqu'à 5h du mat.
Mais vous présentiez le film?
Non, je ne présentais pas du tout.
Vous étiez programmateur.
Programmateur. Et mes programmateurs astucieux, parce que je passais...
Je vendais des glaces et...
Non, je passais des documentaires qu'on ne reverra jamais, l'influence sexuelle sur le comportement des fourmis rouges en montagne rocheuse, par exemple, des trucs formidables. C'est le Technicolor qui pète, tout ça, bon.
Et vous avez une collection personnelle de films impressionnants?
Non, ça c'est chez un ami à la campagne, parce que...
Non, je demande pas l'adresse, non, je veux savoir si...
J'ai plus la force de
porter les bobines. Les bobines. mais oui, vous êtes collectionneur.
Oui.
D'accord. En 2008, on va passer du cinéma au théâtre.
Violent, angoissant, cruel, inhumain.
Là, on se replonge dans l'ambiance de l'album Jambalaya, qui était sorti peu de temps avant. Mais Eddie Mitchell se retrouve au théâtre.
Et oui, sur scène, aux côtés de Cécile de France, le temps des cerises.
Alors là, sera d'ailleurs dans le prochain album.
Dans le volume 2.
Fidélité, donc retour avec cette partenaire de jeu. Vous étiez sur la scène du Théâtre de la Madeleine. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte cette nouvelle expérience? Parce qu'autant au cinéma, on peut se dire, on coupe... On a peut-être une sécurité au théâtre, on est mis à nu.
Il y a d'abord le thème de la pièce qui m'a plu, et puis le fait de faire partenariat avec Cécile de France, une comédienne extraordinaire qui est... Et je pèse mes mots parce que non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui attire la lumière.
Ouais, ouais.
Elle est, je dis pas qu'elle est quelconque dans la vie, loin de là, c'est une jolie fille.
Elle est une jolie fille joyeuse et,
ouais. Ah oui, oui, débridée.
Et bonne camarade.
Très bonne camarade. Ouais. Et par contre, vous lui mettez un petit coup de peinture sur le nez, paf, un spot et elle prend tout. Elle est extraordinaire.
Et est-ce que c'est plus proche de votre métier finalement d'être sur scène?
Ah non, non, ça n'a rien à voir.
Non.
Ah, rien à voir.
Pas plus, vous n'êtes pas plus à l'aise, vous n'avez pas quelque chose. Vous avez quand vous chantez sur scène, vous avez un rapport au public, vous savez tenir.
La voix fatigue moins au théâtre, hein, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on fatigue moins. Quoi, hein. Mais non, c'est une autre expérience, mais par contre qui ne m'a pas.
Bouleversé,
parce que c'est tous les jours la même chose.
Je veux dire, ouais, de refaire tous les soirs la même chose, ça c'est.
Et puis c'est la même loge où Sacha Guitry. Est mort dedans, mais il y a très longtemps, mais ils n'ont rien fait depuis, quoi. Ouais,
et ça sent toujours. Ils l'ont enlevé quand même. Ça sent toujours les chaussettes.
Mais vous avez besoin d'être en mouvement, quoi. La tournée, c'est indépassable.
J'aime plus beaucoup les tournées parce que les hôtels, ça va, je les connais par cœur. Les salades gourmandes à 1h du matin, ça suffit.
Périgourdine.
Le club sandwich.
Club sandwich bien rassis. Bien...
Non, mais maintenant.
La frite
en
qui...
fait, j'ai l'impression que vous faites tout ça dans ces conditions, Eddie Mitchell, ouais. Maintenant. Si vous tournez en France, vous n'allez pas dans des hôtels miteux.
C'est pas miteux. Je ne parle pas d'hôtel miteux.
Ah oui, d'accord.
Je dis de toute manière, 1h du matin, vous dînez où? Déjà à Paris, c'est compliqué, alors ouais. À Limoges.
En fait, vous avez pas envie qu'il y ait maintenant le moindre truc qui vienne vous emmerder.
Ah ouais, exactement.
C'est ça.
Exactement.
On est limite de la contrariété.
Non, mais c'est vrai.
C'est le luxe génial. C'est
vous mais j'avoue que je suis quelqu'un de gâté. Hein, ouais. Béni des dieux, c'est vrai.
C'est une chance inouïe. Avec Cécile de France, vous avez chanté quoi sur le.
La dernière séance, elle la chante d'une façon complètement. Charmante, très, très écolière.
Parfait.
Ah là 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 là. Quoi.
La même tribu, Eddie Mitchell, pour l'instant, c'est le volume 1. Il sort aujourd'hui cet album avec tous ses titres, dont...
On a quelque chose de Tennessee,
de Belle-Île en mer, ou de Lucie, foule sentimentale.
Femme, je vous aime, c'est la vie.
Yves Vigo est notre invité. Merci Yves de venir à ce micro. Vous êtes producteur, animateur, programmateur, journaliste, directeur général de TV5 Monde et patient surtout, puisque vous êtes là depuis le début de l'émission.
Vous êtes là depuis très longtemps.
Depuis en qualité, ouais, 3 jours. il est venu jeudi pour l'émission de vendredi, c'est pour te dire à quel point il est cool. Les amours de la chanson française et du rock, on en avait parlé ensemble aux éditions Don Quichotte. Et on parle de... devant Eddie, de ce côté monstre sacré. On n'en a plus tant que ça, des monstres sacrés, mais c'est un livre ouvert, la vie d'Eddie Mitchell. Il nous reste qui, d'ailleurs, comme monstre sacré dans la chanson française?
Il y en a un à côté de vous.
En plus, Eddie, ouais.
Nagui, il y a Johnny, hein, ouais. Bien évidemment.
Bien sûr.
Il y a Charles Aznavour.
Et que nous recevrons bientôt, d'ailleurs, dans la bande originale. Ça sera le 27 novembre.
Et je vais peut-être vous surprendre, mais il y a Serge Gainsbourg.
Toujours.
Ben oui, toujours.
Malgré son absence, entre guillemets.
Parce qu'il est toujours présent. Alors non seulement il est présent à travers Jane Birkin, évidemment, hein, qui fait vivre son répertoire, à travers Charlotte, hein, sa fille, qui devient une artiste, mais aussi une chanteuse considérable, qui sort un très bon album de ces jours-ci.
À travers les Vieilles Canailles qui ont été reprises.
Parce que c'est vrai que
les Vieilles Canailles, c'est Gainsbourg.
Ben oui, bien sûr. Et puis aussi, à travers cette carrière posthume qu'il fait dans le monde anglo-saxon, et dont il aurait rêvé quand il était vivant, parce que c'était son obsession. Moi, quasiment chaque fois que je le tournais pour Rapido, il adorait nous parler en anglais, puisqu'on était diffusé sur la BBC.
Je vais poser une chose. Chaque fois que je le tournais pour Rapido, ce n'est pas une expression culinaire.
ni pour un scooter.
Vous étiez en tournage pour une émission qui s'appelait Rapido, présentée par Antoine Decaune. Antoine, que vous retrouvez tout à l'heure à 16h sur nos antennes.
Voilà, et dont j'étais le rédacteur en chef.
Voilà.
Et Serge, il adorait parler en anglais parce qu'il trouvait que c'était moderne, parce qu'il aimait la musique anglo-saxonne, comme Eddie, comme Johnny, comme les gens de cette génération. Il était fasciné par ça. Il serait tellement heureux aujourd'hui de voir qu'il est l'inspiration de Tame Impala, de Beck, de tellement d'artistes anglais, américains, australiens d'aujourd'hui.
Will.i.am a déclaré vouloir faire de revisiter Melody Nelson, le concept album de Melody Nelson, tellement il est fan de Gainsbourg.
Qui, et Eddie s'en souviendra sûrement, a été un bide incroyable lors de sa sortie.
C'est vrai.
Serge, il a failli se faire virer à l'époque de chez Philips parce qu'il en avait vendu moins de 15 000. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré, tout le monde pense que ça a été...
Mondialement comme un album référence. Ouais.
Mais oui, c'est, il figure, cet album, dans les classements de la presse spécialisée anglaise ou américaine, dans les 100 ou 200 plus grands albums de tous les temps. Et vous voyez, c'est la manière dont l'histoire se réécrit. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé que ça avait été un succès à l'époque.
Bien sûr.
Comme Starmania dans un autre genre. Tout le monde est persuadé
ça
que Starmania...
Ça s'était planté, c'est vrai.
Starmania, oui, bien sûr.
Du mal à démarrer.
Ouais, mais oui, ils étaient obligés de faire venir, d'inviter les pompiers de Paris pour remplir la salle.
Mais un peu de respect pour les pompiers de Paris, c'est bien de les inviter. Arrête,
ah bah ouais, mais surtout les pompiers. Dites-moi, Yves. Oui, j'ai une passion pompier, moi. J'avoue.
Ouais, mais comme ça, je comprends.
Je fais mon coming out pompier. J'attends pas le 14 juillet.
Mais il dit aussi, apparemment.
Un peu moins, quand même.
Je vous en montrerai quelques-uns.
C'est fini, oui.
À quoi on discute.
Le roi des forêts, bon pardon.
J'ai une question, Yves. Côté monstre sacré, il n'y a pas de femme ? Qu'est-ce que vous comptabilisez dans les femmes, entre guillemets ? Est-ce que quelqu'un comme Barbara mériterait de figurer dans ce
Alors, bien sûr, mais bien sûr, Edith Piaf, mais la question de Nagui, je pense, concernait les vivants. C'est pour ça, d'ailleurs, que...
Bah, on a parlé de Gainsbourg.
Que je parlais de Gainsbourg, justement, pour vous surprendre. Mais oui, bien sûr, on peut imaginer, parce que dans la question de monstres sacrés, il y a quelque chose aussi de l'ordre de « ils sont en péril » ou un peu au bout. Moi, je pense qu'on pourra vraisemblablement, dans quelques années, considérer que Véronique Sanson était un monstre sacré de la chanson française, parce qu'elle a apporté avec Michel Berger quelque chose de tout à fait révolutionnaire, justement dans la génération...
Et pourquoi dans quelques années, on ne peut pas le dire maintenant que c'est un monstre sacré, Véronique Sanson ?
Ouais, il faut quoi comme critère, en fait ?
Parce que c'est ça qui est...
Elle a traversé beaucoup de périodes musicales, si on parle de Non, mais
Véronique. C'est-à-dire la notion même de monstre sacré est quand même... Il y a monstre, hein, déjà. Je veux dire, parce que sacré, c'est une chose, mais monstre, c'en est une autre. Il faut avoir quelque chose de monstrueux en soi que Johnny possède. Ça, c'est clair, je pense qu'on...
Et
ou que Piaf possédait. C'est-à-dire, il y a un truc de l'ordre de... une espèce de possession, quelque chose de presque un peu messianique, hein, pour être justement un monstre sacré. Et donc, c'est quelque chose qui est indépendant du talent. C'est en ça que peut-être Véronique, son talent n'est pas en cause, il est absolument immense, mais est-ce qu'elle est monstrueuse? Et est-ce qu'elle est déjà sacrée ? Je ne sais pas.
Est-ce que dans Monstre Sacré, il faut aussi comprendre, je vais faire attention parce que Eddie Mitchell a peut-être un doigt cassé, mais il lui reste encore neuf avec lesquels il peut frapper.
Il a des très bonnes oreilles. Hein,
Et une très grosse chevalière.
Est-ce qu'il faut entendre vie d'icône du rock, c'est-à-dire drogue, alcool...
Tumultueuse,
tumultueuse, accident de voiture, la une des journaux à sensation et ainsi de suite.
En tous les cas, la tragédie. Oui, forcément. Je pense que c'est un mélange entre la tragédie, vous évoquiez Barbara.
Mais Véronique Sanson a quand même un parcours un petit peu difficile. Elle a été mariée, elle a eu des problèmes avec... Non, je me trompe.
C'est pas la seule difficulté qu'elle a connue.
Elle a dit, on a parlé, et puis même les rapports violents avec Stephen Stills aussi, qui n'était pas le plus tendre des maris.
Mais il ne suffit pas d'avoir connu un mariage monstrueux pour devenir un monstre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très compliqué, ces notions à manier.
Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi limité par le fait que souvent ça a été des hommes, les monstres sacrés, et qu'on a peut-être du mal à apposer ce qualificatif à une femme parce qu'elle représente sans doute autre chose dans ce qu'elle dégage sur scène ?
Non, sorcière divine ?
Non, je ne pense pas. Je pense que Edith Piaf était un monstre sacré, que Maria Callas était un monstre sacré. Donc je ne pense pas que ce soit une question genrée.
Mais moi j'ai quand même l'impression quand même, c'est on dit monstre sacré et on parle de ses vie dissolue, sans entrer dans la vie privée d'Eddie Mitchell, je n'ai pas le sentiment que vous ayez autant de fêlures ou de...
De tourments, oui.
C'est-à-dire que, comme si on reprend la définition du monstre sacré, il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui s'y prêtent aussi. Bon, et moi, je préviens
les gens... Vous jouez plutôt la tranquillité aussi.
Non, moi, pas la peine d'entrer dans mon jardin secret,
C'est ça. Mais comme un peu Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus l'image d'un bonhomme qui a touché à tous les produits dérivés, qui a une vie dissolue, qui fait... Non, mais c'est
comme ça que t'appelles.
Non, mais là, on sent le producteur qui parle, produits dérivés.
On sent pas l'homme torturé, ouais.
Je voulais pas répéter alcool et drogue, mais c'est pas une image qu'on peut avoir de Goldman, qui est plutôt un mec extrêmement sain.
Ah non, qui fait du jogging tous les jours, pendant des kilomètres. kilomètres, oui.
Bah là, il va trop loin, quand même.
Quoi? Du sport?
Sur la corniche à Marseille.
Ou à Londres, maintenant, puisqu'il il est parti. Est-ce que on parlait du succès, justement. Est-ce que les monstres sacrés peuvent, c'est le cas de Gainsbourg, mais enfin, tu as déjà répondu à la question, ne pas connaître, un peu comme des peintres, d'ailleurs, la reconnaissance publique de leur vivant?
Ah ben oui, malheureusement pour eux. Alors Serge, heureusement, il a connu très tard d'ailleurs la reconnaissance publique en France. Mais c'est vrai que son rêve d'être sur le même plan que les Beatles, Dylan, Jimi Hendrix, etc. Ben c'est venu effectivement après sa disparition. Mais c'était le rêve de Michel Berger, par exemple. Alors, terrible, qui meurt la semaine même où Cyndi Lauper fait pour la première fois de The World is Stone un succès en Angleterre, qui était ce dont il rêvait depuis toujours, par
exemple.
C'est
la même semaine, c'est terrible.
Ouais. Ouais, la veille, même, très précisément, la veille de sa mort. Donc je ne sais pas s'il a eu le temps de le savoir.
Quels sont, Eddie, vos rapports justement à la mort? Vous êtes un angoissé, vous êtes hypochondriaque, vous faites attention à votre santé?
Je fais attention, oui, de temps en temps. Hein.
ça c'est pas faire attention, ça, Eddie Mitchell.
Non, je fais pas très attention. Je dois reconnaître que même ça déconne sec. mais je fais un peu de sport quand même. Voilà, quelques étirements.
L'angoisse ou pas du temps qui passe
J'ai pas le temps de m'angoisser. Non, franchement, j'ai pas le temps de m'angoisser.
On sait qu'à un moment donné, on va tous mourir. Ça, oui, c'est une règle.
Il est bien informé, Nagui.
Il n'y a pas de débat. J'ai vu ça sur Internet.
Ah, c'est vrai.
On le sait. Sauf qu'on n'a pas. Chacun, on n'a pas le même rapport.
Je suis un rêveur, moi j'aimerais mourir dans mon sommeil, sans m'en apercevoir, sans souffrir, sans rien du tout, quoi. Comme le souhaite, j'imagine, le monde entier.
Voilà, oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce soit en douceur.
Oui, mais je veux pas être malade, quoi.
D'accord. Merci mille fois, Yves Vigo, d'être venu et bravo encore pour ce livre. Je sais pas comment le qualifier d'ailleurs parce que c'est pas un roman. Ce sont plutôt vos connaissances, vos histoires, les petites histoires de la grande histoire de la musique. Vous êtes vraiment un amoureux de la musique, d'ailleurs des amours de la chanson française et du rock. Ça c'est le volume 2 de Téléphone à Christine and the Queen. Le volume 1 était
Je t'aime moi non plus. C'était de Gainsbourg à Goldman et Eddie, évidemment, finissait par être en très bonne place dans ce volume, avec juste après Johnny, c'est normal, c'est le chapitre suivant.
Merci mille fois, Eddie est notre invité jusqu'à midi et demi. Tanguy Pastureau, tout à l'heure, vous serez là.
Bonjour,
Tanguy,
bonjour
en forme, Tanguy.
Oui.
Mercredi a ouvert le Louvre à Abu Dhabi. Évidemment, à Abu Dhabi.
Oui,
et vous m'en parlez que maintenant.
Mais oui, c'est cet émirat du Golfe Persique où le SMIC est à 16 000 euros et où le concept même de l'existence de Philippe Poutou semble inconcevable. Alors, ils ont monté un Louvre universel. On y trouve du Vinci, de la tête maori en bois, de l'estampe asiatique. C'est super. En 2 heures, vous avez tout vu et vous pouvez aller glander à la plage.
Parfait. À tout à l'heure, Tanguy Pastureau.
Mais on n'a sûrement pas le même. T'aime. On a tous craqué un jour sur Je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos manitous, nos grands sachem. Pour le grand public, on est le star system.
La même tribu, c'était Eddie Mitchell, notre invité jusqu'à midi et demi dans la bande originale sur Inter. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec les Lacats de Woodhaby, Lina Rollman, Daniel Morin, Tom Villa,
bonjour.
Tanguy Pastureau et
qui ça?
Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, la même tribu. Non, il n'y a pas les pompiers.
Non. Eddie était en train de boire, donc pardon.
De l'eau, je tiens à le préciser.
Oui, bah,
la même tribu, ce volume 1, avec cette pochette de Ralph Meyer, qui caricature. Non, c'est pas eux, c'est plutôt ce sont des croquis gentils, westernisés de tous vos invités sur cette même tribu, avec Johnny Hallyday, Alain Souchon, Renaud, Julien Clerc, Arnaud, Keren, Jacques Dutronc, Ibrahim Maalouf, Charles Bradley, on n'en a pas parlé, tiens. Baby, here I am, I'm
my man on the scene.
On the scene.
I can give you what you want, but you gotta come home with me.
On a parlé de votre carrière tout à l'heure en disant qu'il y avait les tournées, qu'il y avait le théâtre, le cinéma, le studio, les escales gourmandes, la tribu. Mais vous avez tout résumé en disant, moi, je veux plus m'embêter, voilà.
Oui.
Je vais être tranquille. Où êtes-vous le plus heureux?
Ah bah c'est simple, c'est en famille, ou avec des amis, bien sûr, chez moi, à Saint-Tropez, voilà.
D'accord. Et professionnellement?
N'importe où. Alors ça, c'est pas grave. De toute manière, je suis bien partout parce que quand je travaille, je m'occupe pas de... Par exemple, je vais à Los Angeles, mais j'aime pas beaucoup Los Angeles.
Pourquoi vous y allez alors?
Parce que j'aime le travail des musiciens, des studios, de choses comme ça.
Ouais, il y a des studios parisiens, londoniens, oui. New-Yorkais, Nashville.
Oui, je veux dire... Non, mais la différence, si vous voulez, c'est qu'aux États-Unis... ce que j'aime dans les États-Unis, c'est la façon de travailler. Et en France, on travaille très très bien aussi.
Ils ont
aussi.
Quoi de plus, ouais.
Mais vous pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire, car les musiciens, on leur demande beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on leur demande le matin de faire de la bossa nova, l'après-midi du musette et le soir de rhythm and blues.
En France?
Oui. Bah oui, s'ils veulent travailler, il y a pas le choix.
Hein, il faut qu'ils aient leur nombre d'heures d'intermittent, oui, du spectacle.
C'est oui, ça. Bon, ouais. Enfin non, quand même pas, mais ils sont obligés pour gagner leur vie de faire 25 choses différentes. Alors qu'aux États-Unis, vous allez, par exemple, si je vais à Los Angeles, je vais pas leur demander de jouer de la bossa nova. Hein, je vais leur demander de jouer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font mieux.
Et ce qu'ils ne font qu'en permanence, en fait. C'est pour ça qu'ils sont meilleurs,
oui,
parce qu'ils sont
spécialisés.
D'accord.
Vous allez à Memphis, vous allez avoir de rhythm and blues d'enfer, mais vous allez pas avoir de pareil. Du tango, quoi.
La même tribu, on a parlé de tous ses amis, volontairement, j'ai gardé le meilleur pour la fin, cette tribu s'étend à un cercle plus personnel.
Le dieu Jane Dean était déjà mort, mais Elvis Presley avait son disque d'or et la voix d'Elvis chantait Good Rock Tonight.
Alors présentez-nous cette jeune personne.
Eh ben, il s'agit de ma fille aînée. Je rigole, mais c'est vrai que c'est amusant parce que c'est pas un perdreau de l'année. Ce n'est pas une jeune fille de 14-15 ans.
Et d'accord, hein, mais d'accord. C'est pas...
Non, mais enfin, c'est une belle fille, bien sûr, c'est normal. Mais elle s'est découvert le talent de chanteuse, si on peut appeler ça comme ça, il y a 2-3 ans seulement. Et puis... un soir,
bridée par être
non.
La fille d'eux, c'était...
Ah non, pas bridée du
elle
tout,
se l'interdisait avant.
Elle chantait devant sa glace, elle chantait comme ça.
Oui, mais en même temps, elle se disait, je vais pas me lancer dans cette carrière parce que je suis la fille d'eux.
Non, ça
jamais elle s'est pas posé la question, ça. D'accord.
Non, c'est son mari qui se trouve être le producteur artistique de cet album,
ouais.
De ses albums plutôt, qui gratte la guitare et qui a un petit groupe, mais un petit groupe pour rire, c'est genre... Le bal des dentistes, quoi. Un peu.
C'est vrai. Tout est habillé.
Ouais, hein. Les chaussettes noires, quoi, un petit truc.
Ouais. Exactement. Non, mais tout ça n'a rien de réellement professionnel, de réellement. Ouais. Réellement, je veux dire, ils n'ont pas la tête, quoi, ils s'amusent. Et un soir, je les ai entendus, j'ai trouvé ça très bien. Et je dis à ma fille, mais tu chantes bien, c'est la première fois que je t'entends. Enfin, oui, je chante jamais. Ben voilà, bon. Et ben j'écoute, tu viens chanter avec moi dans mon disque, et puis voilà.
Et c'est amusant parce qu'on voit le papa un peu gêné aussi de raconter ça, parce que vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y avait votre cercle familial privé et qu'il ne fallait pas qu'on y touche, et si on rentrait dans le jardin on était bien accueillis comme il faut pour bien comprendre qu'il fallait repasser la couture de l'autre côté rapidement. et là vous êtes obligé un peu de parler de sa vie privée. Vous êtes posé la question d'ailleurs en disant, est-ce que je fais rentrer Marilyn dans la tribu?
Oh bah non, il n'y a pas de question. La famille fait partie de la tribu, quand même.
Oui, mais vous l'exposez, là.
Oui,
vous pouvez plus la cacher.
Oui, mais c'est de sa faute, qu'elle chantait un peu moins bien. Ça serait parfait.
Voici le moment d'avoir Tanguy Pastureau qui maltraite l'info sur France Inter.
Bastion.
Tanguy, cette semaine a eu lieu donc l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi.
Oui, c'est comme le Louvre normal, sauf que les types à l'entrée n'essayent pas de vous vendre un poster de la Joconde, mais la Joconde. Parce qu'à Abu Dhabi, il y a plus de blé que dans 1000 paquets de cracottes. Car coup de bol pour eux, sous leurs pieds, ils ont plein de gaz et de pétrole. Là-bas, vous jetez un mégot de clope par terre, il y a tout le sous-sol qui s'embrase et le pays part en torche. Seulement le pétrole s'attire sur sa fin, à cause de nous, les bobos, qui roulons à biclou et achetons de l'eau en bouteille de verre plutôt qu'en plastique pour éviter que le gosse, à cause des perturbateurs endocriniens, se mettent à muer à 3 ans et demi. Le mien à 3 ans, je lui dis sois sage à l'école, il me répond ouais papa t'inquiète, je suis mûr, la preuve là j'arrête la clope. Ah donc je peux vous dire que j'ai stoppé le plastique. Si Karen Cheryl fait ça aussi, elle aura peut-être une tête normale. Bref, à Abu Dhabi
c'est... Sacré,
on
comme
ne
ça.
Dit pas les affaires.
Mais c'est mon idole de jeunesse en plus. Bref, à Abu Dhabi, c'est qu'elle doit se mettre au tourisme, la grosse manne à pognon du 21e siècle. Puisqu'avec les vols low cost, on peut faire le tour du monde pour 29 euros. Plus les options, 119 euros par bagage, 29 pour un café, 49 le sachet de pistache. Et si l'avion chute, une dame arrive et dit, et grande vente flash sur les gilets de sauvetage, 1419 euros pièce, à saisir avant le crash, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc à Abu Dhabi, le boss, le cheikh Khalifa Ben Zayed Ben Sultan Al Nahyan, que ses proches appellent vieux, hein, pour faire plus simple, s'est dit, à Dubaï juste à côté, ils sont déjà sur le gros tourisme qui tâche et ont tous les kékés qui veulent se bronzer la fesse molle en regardant quatre émirs flamber en Maserati. Il faut qu'on trouve autre chose. Il réfléchit et se dit l'écologie, c'est pas possible. L'été, il fait 50. Si on met un ficus dehors, il fond. Et on va se taper Nicolas Hulot venu faire du char à voile qui va nous prendre la tête avec la qualité des eaux de baignade. La prostitution, c'est la Thaïlande. Le blanchiment d'argent, c'est les îles Cook. L'ennui, c'est la Pologne. Et soudain, il s'écrie « Oh, par la barbe de mon frère, le cheikh Mohamed Ben Zayed Ben Enets Al Rayan Ben Seti. J'y suis. On va devenir une destination culturelle. »
D'où un projet d'un deuxième musée du Louvre.
Oui, alors le chèque, il y a longtemps, on était sous Chirac, appelle le président, lui dit « Mon pote, j'ai une idée, j'achète le nom Le Louvre, 400 millions d'euros. Hein, » pour lui, c'est l'équivalent d'un chèque déjeuner. Chirac dit « Donne-moi un quart d'heure, je réfléchis. » Il boit 12 bières, dévore 2 têtes de veau, puis la mère des veaux tout entière, et rappelle en disant « Ok, hein, de toute façon, moi, le radeau de la Méduse, je m'en tape, mon truc, c'est les sculptures de pygmées en étui peignien qui tirent à la sarbacane. » Et mercredi, enfin, 12-13 ans après, le truc a ouvert, construit par Jean Nouvel, hein, comme tout le reste, et Abu Dhabi a reçu ses premiers touristes, que des gens sensibles qui trouvent 40 explications possibles à une tache bleue que Yves Klein avait peinte en se disant « on va bien se foutre de leur gueule ». Alors l'émirat veut prouver, dit-il, qu'il est tolérant, hein, c'est leur nouveau truc, l'Arabie Saoudite pareil, enfin le type a mis en tôle tous les vieux schnocks ringards et il se la joue à la Julien Clerc dans R. Alors au Louvre à Abu Dhabi, ils ont mis côte à côte un Coran du 9e siècle, une Torah du 14e et une Bible du 13e. Hein, nous, on fait ça ici, mais c'est la guerre. Hein. Edoui Plenel tweet, Alain Soral fait une vidéo, les indigènes de la République une manif. Sous 4 jours, on entend mort aux juifs, dehors les arabes. Et les mecs démontent les croix du calvaire de Roscoff au pied de biche. Mais à Abu Dhabi, non, c'est détendu. Il fait trop chaud, si on se bat, on transpire. Et après, on sent la mort. Ce qui, dans un lieu raffiné, ne se fait pas. Au musée, même Patrick Sébastien se retient de flatuler. Alors il y a aussi dans ce Louvre un autoportrait de Vincent Van Gogh, un vieux. Ce loser infoutu de vendre une toile de son vivant. Aujourd'hui, il pourrait à peine se payer la Croatie, donc Abu Dhabi, bien sûr, pas question. Il y a une statue de Ramsès II, il paraît que c'est bien, moi je n'ai pas vu le premier. Et même un Vinci, hein, le mec était productif, autoroute, parking à gérer, le soir il peignait, enfin chapeau. Mercredi est venu inaugurer le musée le président Macron, qui est trop beau. Il a donc été embaumé vivant et exposé à côté d'un Renoir. Mais aussi Jack Lang, hein, que les types ont commencé à attraper pensant qu'il s'agissait de la statue de Ramsès II. À Abu Dhabi, il y avait déjà la Sorbonne, hein, maintenant le Louvre. Chaque institution française va avoir sa réplique là-bas. Hein, là, Jean Nouvel est en train de bâtir un local de la CGT, une station de Vélib vandalisée et un palais de l'Elysée à Abu Dhabi où ils mettront une panthère à la place de Nemo.
Parfait, merci Tanguy Passion. La bande originale,
Nagui. Sur France Inter.
Si vous parliez de Ramsès, autant écouter Memphis. Oui, Van Égyptien. Van Égyptien, je vois. Bah oui, Van Égyptien. Voici donc Eddie Mitchell et Renaud sur la route de Memphis. Dans la bande originale de ce vendredi, l'album sort aujourd'hui. C'est le volume 1 de La Même Tribu.
On vient de la transition.
J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Je viens vers elle, elle m'attend dans sa robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche.
Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. À la place du mort, un chien loup jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.
Je viens vers elle
et pas dans une Rolls blanche. Un costume un peu élimé aux manches.
J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes aux poignets sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis. Pour une fois, les flics ont gagné. Vers chez toi, je ne fais que passer sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis, sur l'album La Même Tribu, Eddie Mitchell et avec Renaud sur ce volume 1. Et c'est vrai que le plaisir est de redécouvrir ces chansons. Il y a pas, c'est pas forcément les plus connus hein, sur ce volume 1 que vous avez choisi, parce que si on parle de d'Otis par exemple, oui. c'est pas le plus gros succès.
Oui, mais enfin pour aller avec Charles Bradley, c'était bien.
Ça allait bien, voilà, c'est ça. Voilà. Après il y a le mariage dans ce casting. L'album sort aujourd'hui et il y a un DVD aussi, un documentaire sur le tournage, c'est-à-dire oui. Pour voir ses coulisses et avoir le sentiment encore plus d'être dans la tribu.
C'est ça, mais le truc est très simple. Il hein, n'y a pas non plus, il y a pas la charge d'abrigade légère. Il y a ses studios et puis il y a plein de trucs sympathiques. Mais enfin, vous attendez pas, je veux dire, à vos 7 mercenaires, quoi.
Si, non, mais quand même, parce que c'est magique, vous vous rendez pas compte de l'aura que vous avez, mais ouais, parce que vous dégagez quelque chose de magique, d'impressionnant. On vous aime, c'est quand même important de le dire aussi, ça fait du bien de le dire, en tout cas, j'espère que ça fait du bien à l'entendre.
Quelquefois, ça fait peur quand vous le dites, Nagui.
Ouais, mais bon, moi j'aime Eddy, j'ai toujours dit et je continuerai de le dire. Mais de vous voir comme ça, travailler, je le disais tout à l'heure, de vous écouter ou de vous voir avec vos amis, on a le sentiment d'en être, c'est-à-dire de rentrer dans ce cercle privé, privilégié. Ce que je me disais, c'est que vous aimez la scène et on aime vous voir sur scène. Là, ça va être difficile de faire un concert avec ces artistes.
Voilà, on va essayer, mais on peut rien promettre parce que...
Réunir tout le monde, ouais.
Faire venir tout ce monde-là, que tout le monde soit libre aux mêmes dates, etc., c'est pas évident. Hein.
Non, mais ne serait-ce que trouver une date.
Ouais,
une.
Oui, mais même, vous y travaillez, même là cette date-là.
Vous y travaillez déjà sur cette date? Vous
essayez moi pas, parce que j'ai pas le temps, mais.
Et parce que j'ai pas envie. Et parce que j'ai pas envie. Et je t'ai dit que moi je voulais être tranquille dans la vie, ok?
Oui, c'est ça.
Non, mais. Ouais. Mon producteur, oui, spectacle, oui, ça s'y intéresse, bien sûr.
Alors je me demandais, dit Mitchell, en écoutant l'album, on réentend, comme l'a dit Nagui, très bien les textes. Est-ce que vous avez une tentation d'écriture? Parce que vous racontez des histoires dans vos chansons, vous écrivez vraiment, il y a quelque chose d'assez, vous êtes un peu pour moi un écrivain peintre quoi, vous posez des images, des situations, vous les développez, est-ce que l'écriture, la nouvelle, le roman, c'est quelque chose qui vous a un peu...
Ah oui, bien sûr, mais Mais pareil, c'est un travail, c'est une discipline, oui. Vous voyez. Parce que j'ai écrit un jour un bouquin qui était, bon, sympathique, mais je l'ai jamais livré en temps et en heure parce que je n'ai pas cette discipline, à savoir que c'est mon éditeur qui m'avait dit ça. Mais tu arrêtes de te corriger, tu nous envoies, nous, oui. On te dit ce qui va pas.
Il faut lâcher la copie, ouais.
Oui, mais lâche la copie. Alors que moi, je relisais, je dis, bah tiens, ça, je vais le refaire. Ça a duré comme ça des mois. Donc c'est pas passionnant, quoi.
Ouais. Mais si on vous dit, je sais pas, une nouvelle, écrivez une nouvelle et demain vous êtes sur scène.
Si tu dis sur ce ton-là, non, je crois. Il faudrait commencer par face, parce que si vous payez, est-ce que c'est moi qui vous dérangez, est-ce qu'il serait possible
une salade gourmande.
Et je sais pas, et dans 15 jours vous êtes sur scène, par exemple, à la Maison de la Poésie, avec une lecture un peu musicalisée. Est-ce que ça pourrait vous tenter de vous lancer là-dedans? Non, bah non. D'accord. Ok.
Tu pourras pas être manageuse d'Eddie Mitchell, je pense.
Non, mais je cherche pas à l'être, mais je me.
Elle a le mérite d'essayer.
Me dis que la façon dont vous écrivez vos textes, elle est
littéraire.
Je la trouve très très forte, très très impressionnante aussi.
Bah, je vous remercie, mais je veux dire, je me prends pas pour Victor Hugo.
Ah hein, mais on n'est pas obligé de se prendre pour Victor Hugo le faire. Il y en a
que j'admire
qui le font,
d'ailleurs. Ouais. Je sais pas ce qu'il devient, mais
il sera sur le 3.
Voici le rêve de Daniel Morin.
Eh bien non.
Quoi?
Eh bien non. Pas de rêve, parce que c'est trop triste. Ah bon? Non, non. Parce qu'aujourd'hui est un jour teinté de malheur. Et aujourd'hui, vendredi 10 novembre, à travers le monde, all over the world, c'est la journée des faibles. C'est pour les petits, pour les exploités, pour les humiliés, pour les bafoués. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des stagiaires. Ah, le stagiaire! Cette race à part, cette race en période de prospérité est en voie d'extinction, mais qui en période de crise se développe de façon ahurissante. Ici, on a du personnel avec un statut de stagiaire depuis 1983. Ouais, ils vont prendre une retraite de stagiaire, les gars. En fin d'année, quand les CDI ont une prime en pognon ou en cadeau, le stagiaire a une pomme. Alors en même temps, c'est vrai, j'exagère. Depuis que Nagui est arrivé, les conditions de vie des stagiaires se sont nettement améliorées.
Ah, tu reconnais?
Mais oui, mais complètement, complètement. Le lundi au bureau, Nagui leur fait livrer les restes de son week-end. C'est somptueux. Je peux vous dire que la qualité, là, même après 48 heures en cuisine, le toast au foie gras est moelleux. Bon, c'est le gras du foie qui suinte, qui imbibe le pain rassis, mais c'est bon et c'est ça qui compte. Merci, maître. Non, mais faut le dire, les stagiaires de la bande originale sont dorlotés, hein. Et au fond, soyons honnêtes, je sais que rien que d'évoquer ça, l'honnêteté, quand on vient parler de Nagui, ça fait bizarre, mais soyons honnêtes quand même. L'ambiance générale ici inter est beaucoup plus détendue qu'avant. C'est flagrant. Tenez, prenons une tranche tendue, presque par définition. La matinale, le 7-9. Bah, depuis le départ de qui vous savez, pour aller
où là, vous savez.
Eh bien, pourtant, l'ambiance est au beau fixe. Pas plus tard que ce matin, j'ai croisé Léa Salamé, avec qui j'ai échangé 2-3 mots quant à l'ambiance en général. Non, parce que c'est pas évident comme ça d'aller spontanément vers Nicolas de Morant, hein, avec son regard de fou, son menton en galoche, sa démarche de satire. C'est vrai, disons-le, il fait peur. Il fait un petit peu peur. Ouais. Voilà. Merci Nagui. Il fait un peu peur. Ah ben, j'ai demandé à Léa, j'ai dit, franchement, Léa, tu peux tout me dire, ça sortira pas de Paris. Ça se passe comment avec Nicolas Demorand? Eh ben, sans hésiter une seconde, elle m'a répondu.
C'est du cul à l'état pur.
Oh non!
Vraiment, elle a répondu ça.
Oh là là.
Du cul à l'état pur.
Et t'avais un micro à ce moment-là, ça tombe bien.
Ah ben, moi, je suis comme ça, moi. Comme quoi, ça se passe très bien entre Nico et Léa. Ah ben, faut dire qu'elle a son petit succès, Léa. Tenez, ce matin, toujours, je l'ai surpris. J'ai surpris un bout de conversation entre Léa et Mathieu Vidard. Léa lui disait, oh Mathieu, j'ai mal au crâne, t'as pas un truc pour moi? Eh ben, sans hésiter, Mathieu l'a pris par la main et lui a dit,
l'orgasme lors d'un rapport a fait ses preuves.
Quel coquin, celui-là. Mais quel coquin. Ah, bah oui, il est comme ça. Enfin, quel coquin. Mais pas avec tout le monde, hein. Quand un autre membre de France Inter, n'insistez pas. Non, dont je tairai le nom par respect pour sa famille, qui ignore encore que c'est un pervers boulimique. Eh bien, quand Augustin est arrivé tout nu et qu'il a dit à Mathieu, j'ai entendu ta conversation avec Léa, figure-toi que j'ai mal au crâne moi aussi, c'est vrai que ça marche bien l'orgasme? Mathieu l'a toisé et a répondu,
la masturbation si vous n'avez rien d'autre sous la main.
Ah bah, je peux
si
dire,
vous n'avez rien d'autre sous la main.
Ça l'a calmé le trapenard, il s'est roulé en boule dans le bureau de la direction, il a chialé pendant 2 heures. Enfin bref, l'important, hein, c'est que tout ça, ça crée du lien. Peu importe les maladies, il y a des médicaments pour ces petites contrariétés. Comme le disait très justement Ali Rabehi à l'occasion de sa soirée échangiste avec Laura Adler.
Grand bien vous fasse.
Ah bah je sais, ça peut surprendre, hein. On est là, on se dit, ouais, France Inter, Radio Coin Sauce, Radio de Chrétien de Gauche, Vendredi c'est Poisson, gna 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 gna. Pas du tout, ici c'est hyper chaud. C'est quoi France Inter, Léa?
C'est du cul à l'état.
Si c'est Léa qui le dit, c'est que c'est vrai. Bon, bah, je vous laisse, hein. Il y a Bernard Guetta qui fait son apéro du vendredi. Faut que j'aille prendre une douche. Bon week-end.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Eddie Mitchell, notre invité avec ce volume 1, La Même Tribu. Avant de se quitter, de vous remercier encore, Eddie, d'être venu. Donnez-nous des nouvelles de votre tournage, parce que vous avez pu, et je l'avais précisé au Zénith pour le Taratata, obtenir une organisation de votre emploi du temps pour venir chanter La Fille du Motel avec Brigitte, qui figure sur La Même Tribu. Vous avez tourné avec...
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Alice Paul... Et on a terminé mardi.
Là. Et là, c'est fini.
Oui, c'est terminé.
C'est une sorte de soulagement, j'ai l'impression.
Oui, bah vous. Oui, c'est tout. Bon, enfin, en même temps, un peu de regret parce que on s'y habitue, on s'amuse bien.
Puis c'est une tribu, un tournage aussi.
Oui, aussi, oui, c'est également une tribu. Mais c'était très fatigant parce que. Parce que l'hôtellerie en France, c'est pour ça.
Encore.
C'est reparti.
Non, parce que. Non, on a vécu quand même. Parce qu'on on a tourné du côté de Auch. Et Toulouse, donc, c'est pas aucun problème. Mais du côté de Hoche, il y a à refaire.
Il y a à refaire,
ah, oui.
D'accord.
C'est dans un château hanté, très intéressant.
Le film s'appelle
Les Vieux Fourneaux, c'est... Oh,
l'adaptation
de la BD.
Génial,
ouais, ouais.
Et vous jouez quoi?
Je joue Mimille sur une bimane abîmée qui a du mal à marcher, qui arrive toujours à la bourre dans tous les rendez-vous.
Oh, c'est génial.
Et voilà.
Et le tome 4 de la BD va sortir là.
Très bien.
Ben, je crois qu'il est sorti.
Il est en train.
Ou demain, je crois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ce matin.
En tout cas, le volume 1 de La Même Tribu sort aujourd'hui. Merci mille fois,
Eddie.
Portez-vous bien. Embrassez votre frangin Johnny pour nous, encore une fois. Et La Même Tribu sort aujourd'hui, je le rappelle. À suivre, Philippe Bertrand. Et lundi, c'est Alexandra Lamy qui sera notre invitée dans la bande originale. Bon week-end à tous. Bonne journée.
Merci.